Le 4 octobre 2023 était célébré le 65e anniversaire de la Constitution. Et depuis 5 ans maintenant, c'est ce même soir, tous les 4 octobre, que s'organise partout en France la Nuit du droit afin de rendre hommage à cette discipline. Une nuit destinée à ouvrir aux citoyens, justiciables, les coulisses d'un monde judiciaire parfois encore trop obscur. Une nuit donnant aussi l'occasion aux acteurs du droit, ceux qui le créent, qui l'enseignent et qui l'appliquent, d'échanger et de croiser leurs regards sur des sujets brûlants d'actualité. Comme l'an dernier, c'est au sein de l'UFR Droit et Sciences Politiques de l'Université Paris-Nanterre qu'Amicus Radio a choisi de vous emmener pour cet événement exceptionnel en partenariat avec le tribunal judiciaire de Nanterre. Nous vous invitons donc à nous suivre autour de conférences et ateliers aussi pédagogiques que ludiques, animés par de nombreux professionnels, universitaires, mais aussi doctorants et étudiants, qui, chacun selon leur spécialité, illustreront pour vous la thématique de cette manifestation consacrée au droit, au pluriel, versus le droit à la recherche d'un équilibre en démocratie. Chers auditeurs, il est 17h, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Nuit du droit. Alors, comme l'an dernier, notre parcours commence dans le hall du bâtiment Simone Veil, où déjà de nombreuses personnes s'activent. Ils sont déjà quelques-uns à prendre place dans ce hall, et je vois avec moi des lycéens. Bonjour, est-ce que je peux vous demander d'où vous venez ?
Bonjour, oui, nous venons du lycée Rune Auffray à Clichy. Et moi, personnellement, j'habite à Asnières, et on est venus avec notre groupe de droit qui est à l'école.
Mais on est ravis cette année d'avoir des lycéens qui s'intéressent à la nuit du droit, parce que vous n'en ferez pas forcément tous vos études, mais en tant que justiciable au moins, j'espère que la manifestation prendra tout son sens ici pour vous. Alors, une simple question, parce que c'est avec vous qu'on débute cette nuit du droit. Qu'attendez-vous en venant ici ? À quoi vous vous attendez et ce à quoi vous espérez avoir des réponses peut-être ?
Alors, principalement, pouvoir en apprendre plus sur le droit, sur son fonctionnement et pouvoir rencontrer aussi des acteurs de ce domaine-là et aussi en apprendre plus sur l'Université de Nanterre que je compte mettre aussi sur Parcoursup.
Bah, exactement, comme a dit ma camarade, elle a à peu près tout résumé, apprendre ce que c'est réellement le droit, essayer de voir différentes fonctions de celui-ci, puis voilà, approfondir nos connaissances et puis aussi c'est très bien pour la culture générale. Découvrir de nouvelles choses, même si on ne veut pas forcément aller dans du droit. Moi, personnellement, je compte y aller, donc ça m'intéresse énormément. Mais pour d'autres personnes qui font l'option droit dans ce lycée, en apprendre un peu plus, et voilà.
Et bah, vous avez beaucoup d'ateliers, de conférences qui se mettent en place. Voilà, donc bah, écoutez, on vous souhaite une excellente nuit du droit.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Le hall du bâtiment Simone Veil a été entièrement restructuré pour accueillir un atelier inédit cette année, une reconstitution scène de crime, mais qui donne lieu à un jeu d'enquête grandeur nature. Nanterre, nuit du 4 octobre 2023. Alexandra Lenoir, une brillante femme d'affaires de 45 ans, est retrouvée morte, gisante, dans la cuisine de sa charmante demeure des Hauts-de-Seine, présentant des traces de plaies contondantes au niveau de ses poignets. Les premières constatations démontrent que le corps de la victime a été déplacé. Ce soir-là, elle avait organisé, dans une ambiance intimiste, une réception à son domicile avec ses plus proches collaborateurs et amis. Si une rapide enquête a d'abord conclu à un suicide, les différents indices retrouvés sur le lieu du crime ne laissent planer aucun doute. Alexandra Lenoir a été tuée. Le mystère reste entier, car aucun enquêteur n'a réussi à résoudre cette énigme. Serez-vous un enquêteur hors pair, capable de relever le défi ? C'est par ces mots que sont accueillis dans le hall les participants à ce véritable cluedo immersif et participatif. Marie Fautou, bonjour. Vous êtes étudiante en Master 2 droit pénal et sciences criminelles. Vous avez participé à la mise en place de cet atelier qui sera un peu notre fil rouge tout au long de cette soirée. Pourriez-vous nous dire ce qui nous attend ici ? Qu'est-ce qui se passe dans ce hall ?
Donc l'objectif est de mettre en place un jeu dans lequel il y aura une immersion totale dans la peau d'un enquêteur à la recherche du mystérieux coupable du meurtre d'Alexandra Lenoir, donc une brillante femme de 45 ans dont le corps gisant a été retrouvé dans la cuisine de sa demeure dans les Hauts-de-Seine. Et donc vous aurez accès à l'ensemble des pièces de la maison pour faciliter vos investigations et trouver des éléments probatoires. Et donc vous pourrez voir une véritable reconstitution de scène de crime.
Et alors, concrètement, parce qu'on connaît un peu le Cluedo, on y joue, comment vous avez fait dans ce hall pour donner vie à ce Cluedo ?
Donc concrètement, l'ensemble du jeu est localisé dans le hall du bâtiment Veil, devant l'amphithéâtre Guy Carcassonne. Donc l'ensemble des pièces est matérialisé par des panneaux et des grilles.
Et donc après, on se déplace au
et
sein
donc,
de...
Effectivement, on se déplace donc dans chaque pièce, et dans chaque pièce se trouvera à la fois un professionnel donc de la police technique et scientifique qui vous expliquera quels sont les indices qui vous seront mis à disposition, et chaque étudiant jouera le rôle d'un des suspects. Il sera habillé en fonction du personnage du Cluedo, et donc à l'issue de cette enquête vous aurez la possibilité d'accéder à une conférence centrée sur le procès criminel, dans lequel sera notamment appréhendé l'ensemble des droits fondamentaux de l'accusé dans ce type de procès.
Ouais, effectivement, on les voit habillés, qui se déplacent dans le hall. Alors on finira tout à l'heure l'issue de cette soirée par une présentation dans l'amphi Carcassonne, comme vous venez de le dire, de présentation du procès en assises, avec les explications sur ces indices. Merci.
Avec plaisir.
Nous arrivons au premier étage, là où le droit de la famille est à l'honneur, comme l'an dernier, dans des audiences JAF, mises en scène avec des étudiants de Nanterre. Mais cette année, on va poser notre micro dans un autre atelier, un atelier dédié à l'amiable. On a un cas concret qui va être lu par un étudiant.
Bien, bonsoir à tous, et je cède tout de suite la parole pour l'exposé du premier cas pratique. Merci à tous et bonne soirée de la nuit du temps.
Bonjour à toutes et à tous, je vais faire un petit rappel du cas numéro 1 que vous avez sous les yeux, enfin, un petit rappel des faits. Donc débutant ses études de droit, Clara emménage dans un studio HLM à proximité de sa faculté, mais seulement après quelques jours après avoir emménagé, elle est prise de fortes démangeaisons. En consultant son médecin, celui-ci l'informe qu'il s'agit de piqûres de tenaxolie. L'intervention d'un professionnel confirme que la moquette qui recouvre le sol du studio en est infestée. Face au refus de son bailleur de payer l'intervention de désinfectation et en apprenant que ce n'est pas seulement son studio qui en est infesté, mais également le tapis de la cage d'escalier des parties communes, Clara envisage d'intenter une action en justice contre son bailleur social. Et la question que nous nous posons, c'est que conseillez-vous à Clara d'un point de vue amiable, voire au fond ou en référé ?
Alors, on va passer le micro successivement.
Ce cas concret lu par un étudiant du master contrat contentieux et du master droit privé fondamental questionne sur l'issue possible d'un litige. Amiable ou juge, quelle voie choisir ? Voici le titre de cette conférence ce soir. L'amiable est une alternative encore trop méconnue. Alors parmi les intervenants de cet atelier, maître Anne-Carine Repart-Suret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Sésame Avocat, membre également de l'Association française des praticiens collaboratifs, mais aussi co-directrice du DU Mode amiable de résolution des différends au sein de cette université Paris-Nanterre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, dans un cas comme celui qu'on vient d'entendre, comment on fait ce choix entre l'amiable et la voie judiciaire ?
Alors, de façon générale, le choix va se faire pour déterminer si dans ce dossier particulier, ce qui ne serait pas le cas, il y a une problématique juridique spécifique qui doit impérativement être tranchée et qui nécessiterait de faire jurisprudence. Il y a une autre nécessité qui obligerait à passer par le juge, c'est de l'escroquerie, de la mauvaise foi évidente, quelque chose qui ferait que le mode amiable ne serait pas possible à mettre en œuvre parce qu'en réalité, on n'arriverait pas à la transparence et à la bonne foi nécessaire dans le cadre du mode amiable. En revanche, dans plus de 80% des autres cas, le mode amiable est non seulement envisageable, mais doit être impérativement envisagé. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, j'ouvre ma boîte à outils des différents modes amiables. Vous avez la conciliation judiciaire, qui est parfois imposée par le code de procédure civile. Vous avez la médiation. Vous avez la procédure participative, vous avez le processus collaboratif. Il se trouve que moi, je me suis formée à l'ensemble de ces différents modes amiables. Et donc, en fonction du cas précis, je vais utiliser un outil ou un autre. Là, par exemple, tout dépendrait de l'importance du litige. Est-ce qu'on est inférieur à 5 000 euros, auquel cas, de toute façon, la conciliation judiciaire s'imposerait. Mais sinon, est-ce qu'on a les moyens d'entrer en médiation? Est-ce qu'on pourrait envisager un processus collaboratif? Ou est-ce qu'il y a besoin d'une expertise et auquel cas, je vais préférer peut-être une procédure participative qui est encadrée par une convention de procédure participative où les parties et leurs avocats peuvent faire nommer conjointement un expert, par exemple. Donc tout dépend en fait du différent. Mais par contre, l'objectif désormais qui est le mien, ce n'est pas d'avoir une bonne décision judiciaire, c'est d'avoir une bonne solution négociée. Et ça reste vraiment mon objectif parce que ça va permettre de régler le litige beaucoup plus rapidement, avec une meilleure satisfaction des clients, au lieu de les envoyer dans une procédure souvent longue, coûteuse et aléatoire.
Et en tant que qu'avocat qui exerçait dans ce domaine, est-ce que vous avez le sentiment que les clients ont de plus en plus un réflexe en ce sens vers l'amiable, ou est-ce qu'il faut quand même passer par un processus assez long pour les convaincre? Parce qu'on est convaincu en vous écoutant de l'intérêt de la démarche, ne serait-ce qu'en termes financiers et également gain de temps. Mais un client, quand il vous consulte, est-ce qu'il a spontanément cette démarche où il y a quand même un travail à faire à ce niveau-là?
Alors, il y a toujours un travail à faire parce que la culture française n'est pas forcément une culture de l'amiable, en tous les cas pas encore aujourd'hui. Et donc, oui, il y a le client, quand il arrive, souvent il veut en découdre. Mais après, il y a une manière de lui présenter son dossier, notamment par la meilleure solution de rechange. Qu'est-ce qui se passe si jamais je vais au contentieux? Je vais le confronter au coût de la procédure, je vais le confronter à l'aléa judiciaire qui fait que je gagne des dossiers perdus d'avance. Malheureusement, même si j'ai face à moi un excellent dossier, je peux malheureusement aussi le perdre du fait de l'aléa judiciaire. Et donc, confronté à ce principe de réalisme, le client se laisse assez facilement convaincre d'entrer en mode amiable, même si souvent il me dit « est-ce que ce n'est pas un aveu de plus ?» parce qu'il y a les magistrats qui nous soutiennent dans cette démarche-là. Et du coup, au contraire, si jamais on propose un mode amiable et que la partie en face refuse, on aura un biais positif en notre faveur. Ça, c'est un premier point. Ma plus grosse difficulté, c'est d'avoir accès à la partie en face. Si jamais j'ai en face de moi un avocat qui est formé au mode amiable, en réalité, très vite, on va se rendre compte qu'il est de l'intérêt commun de nos clients de trouver une bonne solution négociée plutôt qu'un mauvais procès. En revanche, si jamais j'ai en face de moi un avocat entre guillemets à l'ancienne qui est tout judiciaire et qui ne sait pas faire autre chose ou qui pense ne pas savoir faire autre chose qu'un bon voire mauvais procès, je vais avoir beaucoup plus de mal à le mettre en place. Et là, en revanche, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure au cours de l'atelier, c'est que les magistrats peuvent avoir un vrai rôle positif là-dedans en proposant voire même en obligeant les parties à se rendre à une première réunion d'information sur les modes amiables. Et là, il y a un médiateur qui va discuter avec les parties et qui très souvent, mais vraiment très souvent, au cours de la première réunion, va les convaincre qu'une solution négociée est faite pour leur cas et qu'elle va permettre de régler le différend. Donc, si j'ai le soutien du juge dans ce cas-là, j'ai toutes mes chances d'obtenir gain de cause. Voilà.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Quelques salles plus loin, autre ambiance, autour d'une table ronde consacrée aux 40 ans du travail d'intérêt général. Nous sommes allés à la rencontre de Madame Serane Merini, vice-présidente chargée de l'application des peines. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce qu'est un travail d'intérêt général? Parce que c'est la thématique de votre conférence.
Donc, un travail d'intérêt général est un travail qui a été, est une peine qui a été prononcée par une juridiction de jugement, le tribunal correctionnel, qui peut être prononcée à l'encontre d'un majeur, tout comme d'un mineur. Et ça consiste en un travail fait gratuitement au profit d'une collectivité par un condamné, donc sur un certain quantum d'heures, et généralement à exécuter dans un délai de 18 mois, pour laisser justement le temps à la mesure de se mettre en place. Lorsque nous sommes saisis d'une telle mesure, nous saisissons le service d'insertion et de probation pour que justement le lieu d'affectation du litigiste soit déterminé. Et en concertation avec le SPIP, donc le service d'insertion et de probation, nous sommes amenés à suivre le déroulement de la mesure pour s'assurer justement que les heures sont correctement effectuées, que le condamné répond aux convocations, effectue les heures dans le délai imparti, quitte à recevoir parfois les condamnés pour une petite piqûre de rappel et s'assurer que justement tout soit bien mis en place dans les délais.
Et alors, très concrètement, dans quel cas le travail d'intérêt général peut être prononcé ? On a quoi comme cas de figure ?
Alors, soit le travail d'intérêt général est prononcé par la juridiction de jugement, dans le cadre d'une peine principale, peine complémentaire, parfois également dans le cadre d'un sursis probatoire, donc avec une obligation particulière, outre une obligation de soins, de travail, mais également celle de faire un travail d'intérêt général. Mais parfois, le travail d'intérêt général peut être ordonné également par le juge d'application des peines, dans le cadre justement de l'exécution de la peine, puisque le travail principal du juge d'application des peines est d'essayer naturellement de mettre en œuvre et de faire exécuter les peines prononcées par les juridictions de jugement, mais en s'adaptant toujours à la personnalité du condamné et à l'évolution également de son parcours de vie. Donc il arrive ponctuellement que nous ayons des peines d'emprisonnement ferme prononcées par des juridictions de jugement, et le juge d'application des peines, avec l'accord du procureur de la République, va convertir cette peine d'emprisonnement ferme, inférieure à 6 mois, en une peine de travail d'intérêt général. Alors ça représente, c'est quelque chose que l'on voit de façon très positive pour les condamnés. Ça leur permet justement, surtout pour des jeunes qui sont sans activité, de découvrir le monde du travail, de se lever le matin, de respecter des horaires, de découvrir une collectivité, de découvrir le monde du travail. C'est pour ça que c'est une mesure que nous essayons de développer au fur et à mesure au sein justement du 92 des Hauts-de-Seine. Et nous avons une attention particulière justement sur le suivi de ces mesures.
C'est un thème effectivement très intéressant pour cette nuit du droit. Vous allez avoir un échange, je crois, avec une collègue de l'université, avec le professeur Audrey d'Arsonville. Donc on vous laisse à cet échange. Merci pour ces mots de présentation.
Je vous remercie.
On est désormais en milieu de soirée, on se redirige vers le rez-de-chaussée de l'UFR, de plus en plus de monde s'y presse, on va vers l'amphidé qui accueille notamment 2 conférences et on va s'y arrêter un moment. Alors l'une de ces conférences porte sur les interactions entre le juge et la médecine, du début à la fin de vie. Avec nous, nous avons Sabine Boussard, professeure de droit public dans cette université.
Bonsoir.
Bonsoir.
Florence Bellivier, professeure de droit privé à l'école de droit de la Sorbonne.
Bonsoir.
Et également, Madame Delvaux, substitut du procureur à Nanterre. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, une question très rapidement. Quel était le but de cette conférence, le but de vos échanges, où on a pu discuter justice administrative, judiciaire, sur des questions donc liées au début et à la fin de vie ?
J'ai essentiellement présenté dans quelle mesure j'avais besoin en fait des médecins, des avis médicaux pour prendre des décisions et parfois, mais beaucoup plus rarement, dans quel cas j'étais sollicitée par les médecins. En matière d'organes essentiellement.
Sabine Boussard.
On a surtout beaucoup écouté Madame le substitut qui nous a parlé de son activité et de la diversité de ses activités puisqu'elle intervient à la fois dans le champ pénal et dans le champ civil. Et elle a montré comment quotidiennement elle avait besoin du médecin pour prendre un certain nombre de décisions. À l'inverse, on a aussi cherché à montrer qu'on pouvait assister, dans certains cas, à la juridictionnalisation des pratiques médicales. Et on a pris l'exemple du référé fin de vie, tel qu'il a été consacré par le Conseil d'État dans l'affaire Lambert.
Moi, j'en ai retenu alors, beaucoup de choses. C'est que d'une part, vous savez, on dit toujours, et c'est vrai qu'un rapport d'expertise ne lie pas le juge. Alors, Madame le substitut n'est pas juge puisqu'elle est procureure, mais elle nous a bien expliqué qu'il était quand même compliqué de s'affranchir de l'avis d'un sachant. Vu que ni les procureurs ni les juges ne sont médecins, donc savoir si un fœtus était vivant ou mort au moment d'un accident de voiture ou savoir si telle personne dans un EHPAD a subi tel ou tel type de maltraitance qu'on va pouvoir qualifier ou pas de non-assistance à personne en danger ou que sais-je, voilà, ils sont quand même très très dépendants de l'avis de l'expert. Et du même coup, la question qu'on s'est posée, c'est que fait-on quand on est dans une époque de crise des vocations médicales? Parce que comme vous avez besoin quotidiennement de médecins, voilà, on a vu aussi la dimension sociale et politique de nos questions. Voilà.
Merci. Autre conférence dans cet amphidé, conférence sur un thème très différent, preuves pénales, nouvelles technologies et progrès scientifiques. Vont y être notamment abordés des enjeux tenant au recours à différentes technologies pour la conduite des enquêtes et plus globalement au service de la preuve pénale. Reconnaissance faciale, drones, autant de sujets d'actualité et sources d'inquiétude aussi en termes de protection des droits et libertés fondamentaux. Pour en débattre, un intervenant de la police technique et scientifique, une journaliste de l'AFP, deux universitaires, parmi eux Vissarion Giannoulis. Vissarion Giannoulis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit pénal ici, à l'Université Paris-Nanterre. Alors une question avant que vous ne puissiez commencer votre table ronde. Le recours aux nouvelles technologies dont vous allez nous parler ce soir avec les autres intervenants, est-ce que ça change finalement si profondément que ça la preuve pénale et les fondamentaux de la preuve ?
Merci pour cette question et ça c'est l'objet aussi de l'intervention de ce soir. Non, ça ne change pas profondément le droit de la preuve. Il y a certes quelques ajustements et une nouvelle façon de penser, mais ça ne change pas les fondamentaux de la preuve et c'est ça qu'on voulait, c'est dont on voulait parler aujourd'hui. Donc du fait que les principes restent toujours d'actualité et si on les applique bien, il n'y a aucun problème et il n'y a aucun besoin de changer les cadres juridiques existants.
Et de quelle technologie alors vous allez nous parler ?
Les technologies changent, elles évoluent. Oui, bien sûr. Moi, je vais parler plutôt de la reconnaissance faciale, une technologie qui a un usage très limité, voire extrêmement limité en procédure pénale. Et les enjeux et surtout comment donc cette technologie pourrait être appréhendée par les juges et surtout en mobilisant donc les principes fondamentaux du droit de la preuve.
Alors là, peut-être que j'anticipe un peu sur le déroulement de la soirée, mais cette preuve technique finalement dont vous allez nous parler, cette preuve numérique, est-ce qu'elle est irréfutable ? Est-ce qu'on va de plus en plus vers une preuve infaillible ? On se souvient au début de l'ADN de ce qu'on pouvait dire de cette preuve-là. Est-ce que vous avez ce sentiment-là quand même ?
Non, pas du tout. Et c'est ça aussi l'objet de l'intervention de ce soir, que cette preuve n'est pas infaillible, il n'y a pas une super preuve. C'est une preuve comme les autres. Tant d'un point de vue juridique et surtout d'un point de vue pratique. La reconnaissance faciale peut se tromper et se trompe régulièrement. Et donc, il n'y a rien comme une super preuve qui pourra donc anéantir les autres preuves et ça sera utilisé donc, de manière prédominante en procédure pénale.
Merci beaucoup. La salle commence à être pleine. On vous laisse les retrouver pour leur expliquer
ce
sujet.
Merci beaucoup, Sophie. Merci.
Pour finir ce premier tour du hall de l'UFR, c'est aussi un grand forum des métiers qui s'y organise. De nombreux métiers du droit s'y sont représentés, s'y regroupent. Parmi eux, la profession de notaire. Avec moi, alors, maître Guy Durand et Pascaline Delaveau. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, une question très simple peut-être, mais quel type de personnes, d'étudiants, de professionnels, d'auditeurs tout simplement, sont venus à votre rencontre ce soir ?
Alors, on a eu beaucoup de monde. On a eu à la fois des étudiants en L1, L2. Et on a eu également des lycéens de terminale qui voulaient justement faire le tour des différents métiers du droit. Ils venaient nous poser des questions sur qu'est-ce que le notaire, à quoi sert un notaire, comment est-ce qu'on devient notaire, parfois même est-ce que ça gagne bien un notaire. Donc on a eu le droit à des questions tout à fait très intéressantes et passionnantes. Et ce qui est bien, c'est cet échange qu'on peut avoir avec les jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent vraiment connaître ce métier qui est assez méconnu du notariat, où souvent on dit oui, pour être notaire, il faut être fils de notaire. Alors on essaye de mettre à plat tout ça et de rappeler que non, c'est une formation géniale qui est faite ici à la fac de droit, fac de Nanterre, mais toutes les autres facs de droit, et pour lesquelles c'est une formation qui permet d'accéder au diplôme de notaire sans autre conséquence que de s'inscrire à la fac. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut se souvenir. Ce métier est magnifique, passionnant par ce qu'on fait. Et on arrive à devenir notaire uniquement en venant travailler à la fac. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas notaire parce qu'on est fils de notaire. On est notaire parce qu'on a bossé. Voilà, parce qu'on est étudiant.
Je n'ai pas du tout payé ces propos, mais merci, parce qu'effectivement, je les partage. Et je trouve que ce forum des métiers, il est très précieux pour les étudiants de pouvoir venir à la rencontre des professions qu'ils choisiront.
Qu'ils choisiront, mais qu'ils ne connaissent pas.
Voilà, qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Merci.
Je vous en prie.
Moi, je m'appelle Blanche Leblanc. Je suis la femme de John Olive. Et j'ai été concue par Alexandra Lenoir. Et pour contextualiser, donc vous avez compris quel était mon mobile, mais j'ai un alibi parce qu'au moment du meurtre, j'étais sur une A86 en route de l'aéroport pour Orly en direction de Barcelone et j'ai été flashée sur cette autoroute.
Vous alliez à Barcelone ?
Grande effervescence à présent dans le hall de l'UFR de droit où les participants et figurants du Cluedo s'activent toujours. À l'issue de ce parcours, l'identification du suspect est proche.
Mais pourquoi ? Mais elle, c'est qui, elle, là ?
Elle, c'est la compagne de là-bas, là, en vert.
Ok, ok.
Elle s'est fait tromper par la madame qui est morte.
Pourquoi ? Donc là, on se trouve dans la chambre, en fait, l'appartement où se sont déroulées les fêtes. Dans cette chambre, on retrouve deux indices. La première chose, c'est une photo de Olivia Rose quand elle était petite.
Des explications, on l'avait dit tout à l'heure, sont données par la police technique et scientifique sur leur technique d'investigation pour aider les participants à relever ces indices. Sophie Tessé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de l'unité territoriale de la police technique et scientifique. Vous aviez déjà répondu à nos questions l'an dernier, donc merci encore d'être là aujourd'hui. Alors très simplement, aujourd'hui, en quoi consiste votre rôle sur cette scène assez particulière du Cluedo ?
Alors effectivement, c'est une scène un petit peu particulière dans laquelle nous avons 6 pièces du Cluedo qui ont été reconstituées et nous sommes très heureux d'y participer parce que nous participons également avec des étudiants de la fac de droit qui jouent les différents personnages du Cluedo. Donc pour nous, c'est plutôt intéressant. Et donc on va aider les étudiants qui vont parcourir ce Cluedo à trouver des indices, des traces, et qui vont leur permettre normalement à la fin du Cluedo de retrouver le coupable qui a assassiné Alexandra Lenoir.
Donc là on voit effectivement il y a toutes les pièces du Cluedo qui sont symbolisées. Dans chaque on a des indices différents. On a de l'ADN, on a
tout à fait. Tout à fait. Dans chaque pièce, il y a des indices, des traces papillaires à relever, des traces ADN, des résidus de tir. Et puis on a les armes, on a le couteau, on a l'arme, l'arme de poing, on a le chandelier, on a la corde. Et puis on a également tous les personnages du Cluedo qui sont animés par les étudiants de la fac.
Ouais, et bien on va suivre les explications de vos collègues et mener notre enquête. Merci.
Et bien bonne enquête.
Parce que c'est très volatile. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un tir avec une arme à feu, ça dépose sur les mains des particules de plomb, de barium et d'antimoine qui vont être analysées pour prouver que le tir a bien été commis par la personne. Et ça, ces particules, en fait, c'est très volatile. Donc, notre priorité, c'est tout de suite de faire...
Elle, c'est la compagne de Olive. Olive, elle s'est fait tromper par la madame qui est morte.
D'accord, donc elle et machin, là.
Olivier, il
est pas... Elle est la dead.
Ouais, elle est compagnonne.
Et alors, est-ce que vous avez réussi à l'identifier, suspect ?
Moi, je pense que c'est Olive.
Ouais,
ou la demi-sœur.
Monsieur Olive, la demi-sœur.
Oui, parce que la demi-sœur, elle a des problèmes d'héritage. Et ça serait une bonne idée de tout.
Et votre théorie, à vous ?
Je veux pas être méchant, mais en fait, lui, il... Comment dire, il y a plein de trucs qui l'accusent, mais ce serait trop facile. Par exemple, il est parti, la police est arrivée directement. Quoi d'autre ? Il est sous substance illicite. Voilà. Donc c'est trop facile de l'accuser, mais je sais pas, je doute. Elle, je sais même pas qu'est-ce qu'elle a fait, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, en fait ?
Il est temps à présent d'accéder à la conférence sur le procès criminel présentée par les étudiants de la faculté de droit de l'Université Paris-Nanterre afin d'appréhender 6 problèmes de droits fondamentaux, 6 thématiques garantissant à l'accusé un droit important lors du procès criminel. Les assises sont la figure la plus marquante du procès pour beaucoup, incarnant le procès pénal en tant que tel. Dernière question donc à l'un des étudiants qu'on avait croisé au tout début de notre parcours ce soir. Younes Baroudi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc étudiant en M2 droit privé et politique criminelle.
C'est ça.
Alors, quels sont les points juridiques parmi ces 6 points particuliers de droits fondamentaux que vous avez choisi volontairement de présenter et d'illustrer dans ce procès criminel ?
Donc il y a 6 étudiants du parcours sciences criminelles qui vont présenter 6 points de droit qui reviennent à expliquer pourquoi est-ce que l'accusé a été mis en cause et quels sont ses droits dans le procès pénal, donc en assise. Ces 6 points sont tout d'abord le droit de citer des témoins, ensuite le droit au double degré de juridiction, le droit à un défenseur, le droit à un délai raisonnable, le droit au silence et la loyauté de la preuve.
Et pour vous, à l'issue de ce procès d'assises, finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience en tant qu'étudiant en Master 2, donc à la fin d'un parcours universitaire? Qu'est-ce que cette mise du droit vous a apporté dans la construction de ce cluedo et de ce jeu pénal, finalement?
Donc, de manière générale, j'ai participé au cluedo, j'ai été acteur, et on a pu, avec la police technique et scientifique, expliquer à plusieurs étudiants, même des lycéens, comment se passe la collecte de preuves, mais aussi comment va se passer le procès d'assises pour la personne qui, au final, sera mise en cause et jugée et condamnée. Moi, ça m'a apporté quelque chose du point de vue de la police scientifique qui est très peu développé en cours. On voit beaucoup les sanctions, mais très peu qui est avant la sanction. Donc la police technique et scientifique, on n'en avait en fait jamais entendu parler. Et on a découvert tout un tas de méthodes de comment est-ce que les preuves sont récoltées, comment est-ce que les preuves sont conservées, donc dans les fichiers conséquents.
Et bien, merci à vous pour cette implication dans la nuit du droit.
Vous avez ici inscrit, pour ceux qui ont fait le parcours tout à l'heure du Cluedo, vous avez la réponse à l'énigme, mais qui est finalement le début du procès. Quand vous avez résolu l'énigme, elle a porté comme un Cluedo sur un certain nombre d'éléments, parmi lesquels, bien entendu, l'identité de la personne coupable. Coupable au sens du jeu. La traduction après ce qu'on va voir, c'est-à-dire c'est une affaire criminelle, il y a donc une instruction préparatoire, on renvoie devant la cour d'assises. La traduction devant la cour d'assises de l'énigme que vous avez résolue en tient en ces quelques mots. Patricia Pervenche est-elle coupable d'avoir à Nanterre le 4 octobre 2023 volontairement donné la mort à Alexandra Lenoir? Ce sera exactement dans ces termes la question qui sera posée au juré de la cour d'assises sur cette affaire que vous avez vue. Ni plus ni moins. Seront simplement inscrits, on ne les a pas fait figurer, les articles répressifs qui conditionnent la fraction de meurtre.
Nous terminons à présent notre parcours in situ au sein de l'Université Paris-Nanterre pour cette Nuit du droit 2023. Un grand merci à tous les intervenants et participants qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous remercions également chaleureusement l'UFR Droit et Sciences Politiques ainsi que le Tribunal judiciaire de Nanterre pour leur confiance. Merci enfin au label Science Avec et pour la Société pour leur soutien. Cette émission a été réalisée avec l'aide de Marin Hirsager et coordonnée par Léobardo Arango.